Deutsche Welle, Info, Matin.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 juillet 2017, il est 7h en temps universel. Bienvenue dans la matinale Afrique de la Radio Internationale d'Allemagne en compagnie de Sandrine Blanchard. Bonjour.
Bonjour Barry, bonjour à toutes et à tous. La lutte contre le terrorisme au cœur des préoccupations des pays du G5 Sahel. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont confirmé hier à Bamako la mise en place d'une force africaine de lutte contre les groupes armés. Emmanuel Macron, lui, a réitéré les engagements pris par son prédécesseur.
L'Angola ne décolère pas suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région du Kasaï à la frontière avec la RDC. Vous entendrez Sindika Kondolo, l'époux d'Isabelle Dos Santos et gendre du président angolais José Eduardo Dos Santos. Il nie vouloir déstabiliser le régime Kabila par les armes.
Il y a une grande inquiétude et la manière dont le président Kabila est en train de gérer les équilibres de la RDC qui risque de déstabiliser toute la sous-région.
Et puis coup d'envoi aujourd'hui des cérémonies de purification du Togo. Ces actions visent à promouvoir l'esprit d'apaisement après les violences politiques qui ont marqué l'histoire récente du pays.
La rubrique sportive est assurée ce matin par Sophie Servigny. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons évidemment sur la victoire de l'Allemagne lors de la Coupe des Confédérations hier soir, mais aussi sur les premiers jours du Tour de France, parti de Düsseldorf ce samedi.
Juste après le sport, vous retrouverez un extrait de votre magazine Droits et Libertés. Il est 7h01 en temps universel. Et on ouvre cette édition par le Flash Info, Sandrine Blanchard, et on commence par la tournée de Sigmar Gabriel dans les pays du Golfe.
Oui, avant son départ, le chef de la diplomatie allemande a fait part de son inquiétude au sujet des tensions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Selon lui, seul le dialogue permettra de mettre un terme à ce froid diplomatique. L'ultimatum fixé au Qatar par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte pour accéder à leur demande, ultimatum qui devait expirer hier soir, a été prolongé de 48 heures. Les alliés de Riyad accusent le Qatar de soutenir le terrorisme et exigent de lui notamment qu'il ferme sa chaîne de télévision Al Jazeera. Le Qatar a déjà fait savoir qu'il ne pourrait accéder à ses demandes. La visite de Sigmar Gabriel dans la région le conduira en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et au Koweït.
En Allemagne, c'est aujourd'hui que le camp conservateur, celui d'Angela Merkel, présente son programme pour les législatives.
Un document de 70 pages sera officiellement validé par les instances dirigeantes de la CDU et de la CSU dans la journée. Une pure formalité, cela dit, la famille sera au cœur de la campagne d'Angela Merkel avec notamment la proposition d'augmenter de 25 euros par enfant les allocations familiales ou encore des mesures pour inciter la main-d'œuvre étrangère à venir dans le pays de façon encadrée. Les sociaux-démocrates du SPD, toujours alliés de la CDU au sein du gouvernement fédéral, reprochent aux conservateurs d'arroser l'électorat de promesses intenables. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, contre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, prévu vendredi et samedi prochain. La police a interdit aux protestataires de camper sur une presqu'île située sur le fleuve de la ville, campement qui avait pourtant été autorisé par la justice. Des heurts ont été signalés hier soir entre anti-G20 et forces de l'ordre.
En Syrie, les forces soutenues par les États-Unis ont pénétré pour la première fois dans le fief djihadiste de Raqqa par le sud.
Les troupes ont réussi à prendre le marché d'Al-Hal. Elles avaient pénétré dans la ville le 6 juin dernier, avaient déjà repris plusieurs quartiers de l'est et de l'ouest de Raqqa. Dans la capitale Damas, au moins 18 personnes ont été tuées dans un attentat suicide. Tandis qu'en Irak, l'armée annonce de nouvelles avancées à Mossoul face aux djihadistes de l'État islamique, retranchés toujours dans la vieille ville. Des civils sont également pris au piège des combats. Et dans l'ouest du pays, un kamikaze s'est fait exploser dans un camp de déplacés. 14 personnes ont été tuées.
Le nucléaire au cœur d'une nouvelle étude du CIPRI à Stockholm.
Et d'après l'Institut de recherche, aucune puissance nucléaire au monde n'est encore prête à renoncer à son armement nucléaire. Tous les États qui en détiennent sont même en train de moderniser leur arsenal. Cependant, le nombre total d'ogives est en baisse. Début 2017, le nombre d'armes nucléaires dans le monde a été estimé à 15 000 contre 70 000 au milieu des années 1980. 9 États détiendraient des armes nucléaires dans le monde. Les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, le Pakistan, la Chine, l'Inde, Israël, la Corée du Nord et la France.
Un petit mot de culture avec le départ du directeur du Berlinale ou du Berlina Ensemble, Klaus Peymann.
Et oui, le metteur en scène quitte ce théâtre fondé par Bertolt Brecht. Après l'avoir dirigé pendant 18 ans, il sera remplacé à la prochaine saison par Oliver Rees.
Il est 7h05, c'était le Flash Info de Sandrine Blanchard. Et oui, je le disais dans le sommaire, le compte à rebours a commencé pour l'opérationnalisation de la force conjointe des pays membres du G5 Sahel, une force destinée à lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Les chefs d'État des pays concernés, appuyés par la France, vont se mettre au travail pour boucler les financements et opérationnaliser la dite force d'ici le mois de septembre prochain. C'est la principale décision à être à Bamako lors du sommet extraordinaire de l'organisation tenu hier dans la capitale malienne.
Alors la nouveauté de ce sommet de Bamako, c'est qu'il s'est tenu en présence du nouveau président français Emmanuel Macron, ce dernier qui faisait donc ses premiers pas aux côtés de ses homologues africains qui ont salué son engagement dans la continuité de son prédécesseur. Reportage à Bamako, signé Yaya Konaté.
Ils veulent aller désormais très vite. Après la résolution des Nations Unies relative à la création d'une force conjointe des pays du G5 Sahel, place aux modalités concrètes de sa mise en place. Et c'est à cela que s'est attelé le sommet de Bamako. Aux côtés des 5 chefs d'État de l'organisation, le président français Emmanuel Macron venu apporter son soutien à l'initiative.
Le défi qui est le nôtre désormais, c'est que le commandement, les états-majors s'organisent, que les décisions soient mises en œuvre le plus vite possible, pour que vous puissiez, d'ici à la fin du mois d'août, visiter première trace de ce commandement et son organisation, et pour que, ensuite, ensemble, en septembre puis en octobre, nous puissions avancer sur la finalisation à la fois des financements, mais surtout des déploiements opérationnels.
Joignant l'acte à la parole, Emmanuel Macron annonce une aide matérielle et logistique d'une valeur de 8 millions d'euros d'ici la fin de l'année. De quoi réjouir ses partenaires africains qui saluent son engagement dans la continuité des actions menées par son prédécesseur, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Nous avons eu des engagements très forts avec le président Hollande à la fin de son mandat et nous nous réjouissons que le changement n'a pas entamé cette détermination de la France à nous accompagner, et bien au contraire.
Reste que le financement de la force conjointe nécessitera une enveloppe de 423 millions d'euros. Malgré les 50 millions promis par l'Union européenne et l'engagement des pays concernés à débourser chacun 10 millions d'euros, le financement est loin d'être bouclé, mais des pourparlers sont en cours avec d'autres partenaires dont l'Allemagne. Alpha Barry.
C'est important que l'Allemagne soit dans le jeu et nous avons en tout cas des assurances avec Berlin et nous attendons de voir la concrétisation de cela.
Pas besoin cependant de réunir tout le financement pour commencer, assure le président français. Il y a urgence parce que ceux qui sont en face n'attendent pas, confirme d'ailleurs le président malien. Yaya Konaté à Bamako pour la Deutsche Welle.
Le Mali, où des zones entières échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et celles de l'ONU, régulièrement visées par des attaques malgré l'accord de paix signé entre groupes armés et l'État malien. Et puis la question de la sécurité et de lutte contre les groupes terroristes sera également évoquée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne qui abrite depuis ce matin le 29e sommet de l'Union africaine avec pour thème central l'investissement dans la jeunesse et la démocratie.
Et parmi les chefs d'État présents en Éthiopie figure le président congolais Joseph Kabila, dont le pays traverse une crise politique profonde. Le second mandat du président Kabila s'est terminé depuis le 20 décembre 2016, mais aucune date n'a encore pu être fixée pour organiser la prochaine élection présidentielle. Samedi, les Nations Unies ont donc exigé de Kinshasa la publication d'un calendrier électoral officiel.
Un appel qui n'est pas du goût du président de la CENI, Corneille Nangaa, a déclaré que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'a ni qualité ni mandat de demander à son institution de publié le calendrier électoral. Il y a quelques jours, le président de la CENI aurait déclaré hors micro à quelques journalistes congolais que la présidentielle ne pourrait pas se tenir cette année.
Et cette crise politique en RDC a aussi des répercussions sur ses relations avec des voisins, dont l'Angola. Depuis quelque temps, les autorités de Luanda s'inquiètent de l'insécurité dans la région frontalière du Kasaï. Après avoir rappelé son ambassadeur à Kinshasa, l'Angola vient de demander l'aide de la communauté internationale pour prendre en charge les quelques 30 000 réfugiés congolais présents sur son sol.
Une dégradation des relations que constate également l'homme d'affaires et collectionneur d'art congolais Sindika Dokolo. Il est l'époux d'Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, et donc gendre du président angolais José Eduardo Dos Santos. Sindika Ndokolo a été joint à Luanda par Eric Topona.
Mais je pense que les signaux sont assez clairs. Le fait que les Angolais aient retiré leurs coopérants militaires, il y a eu des commentaires qui allaient dans le sens normal, notamment d'exiger du Congo une clarification sur la nature exacte des instabilités qui ont produit des flux de réfugiés du Congo, du Kasaï notamment, vers l'Angola. Je pense que tout ça est effectivement un signe avant-coureur assez clair d'une détérioration de la relation entre les administrations. C'est pas seulement le cas de l'Angola, c'est le cas de la plupart des voisins du Congo. Il y a une perte de crédibilité, il y a un agacement, il y a une grande inquiétude de tous les voisins face au degré d'irresponsabilité et la manière dont le président Kabila est en train de gérer les équilibres de la RDC qui risque de déstabiliser toute la sous-région.
Ouais, on sait que l'Angola a toujours été un soutien de poids depuis l'arrivée au pouvoir d'abord de Kabila père puis de Joseph le fils. Peut-on dire que l'idylle est en train justement de prendre fin?
Je pense que la vision angolaise, c'est que il y a deux peuples frères et voisins qui partagent 2000 km de frontières et donc il doit y avoir une relation qui est fraternelle et qui est équilibrée et qui est mutuellement respectueuse. Il ne s'agit pas ni d'un soutien personnel à M. Kabila ni à aucun clan de Congolais.
Selon une source sécuritaire à Kinshasa, le service donc de détection militaire des activités antipatrie a enquêté sur des liens supposés que vous entreteniez avec le général Faustin Mouni, qui est un ex-chef d'état-major de l'armée congolaise.
Non, je ne connais pas ce monsieur. Je suis personnellement complètement opposé à toute solution violente et à la prise des armes. Je pense qu'on ne guérit pas les souffrances en ajoutant plus de souffrances et je ne pense pas que le problème soit de remplacer M. Kabila par un autre potentat ou un autre M. Kabila.
Pourtant, cette source a signalé à plusieurs reprises à Luanda, où vous résideriez, la présence donc du général Munene.
Oui, il y a 7 millions d'habitants à Luanda, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens que je n'ai pas rencontrés dont on peut signaler la présence à Luanda. Je ne suis pas intéressé à un contact avec des personnes qui ont des plans de déstabilisation du Congo par les armes.
Sindika Dokolo, au micro d'Éric Topona, il a rejoint la dynamique de l'opposition et de la société civile congolaise qui exige l'organisation de l'élection présidentielle en novembre 2017 et le départ du pouvoir de Joseph Kabila. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, fragilisé par une série de scandales politico-financiers, sera soumis à un vote de défiance au Parlement le 8 août prochain. Le vote sur une nouvelle motion de défiance déposée par l'opposition avait initialement été fixé au 3 août.
Les adversaires du président Zuma ont déposé contre lui cette nouvelle motion pour dénoncer le remaniement ministériel controversé de la fin mars qui a été marqué par l'entrée au gouvernement d'une dizaine de ses proches.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Le président Jacob Zuma, qui fait partie des grands absents du 29e sommet de l'Union africaine dont nous parlions tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui commencent donc les préparatifs des cérémonies de purification du Togo. De quoi s'agit-il? Eh bien, des rituels religieux destinés à promouvoir l'esprit d'apaisement et de tolérance après les violences politiques qui ont entaché l'histoire du Togo entre 1958 et 2005.
Il s'agit également de préparer le terrain en prélude de programmes d'indemnisation des victimes de ces violences. Alors les cérémonies de purification vont être organisées sur l'ensemble du territoire. par les églises catholiques et évangéliques, l'Union musulmane et les chefs traditionnels. Si la démarche peut sembler un peu inhabituelle, elle est tout de même indispensable, à en croire du moins Claudine Ayaniyo du Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale.
C'est l'une des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui, en travaillant en son temps, reçu des personnes qui faisaient remarquer qu'ils étaient hantés par les membres de leur famille qui ont disparu violemment. Donc, il fallait faire quelque chose pour que les âmes reposent en paix et que les familles puissent retrouver la paix. Et comme le HCOUN est mis en œuvre des recommandations de la CDGE, donc on ne pouvait pas. Et comme on est en Afrique, tout le monde sait qu'il y a cette cérémonie-là, qu'on doit faire, des prières qu'on doit faire pour que des événements cycliques là ne reviennent plus. Par exemple, il y a toujours des endroits dans plusieurs villes où il y a fréquemment des accidents de circulation. Et il y a également là où vous remarquez que les acteurs politiques vont se mettre d'accord sur un sujet pour faire avancer le pays. Ça tourne à autre chose.
Claudine Ayaniyo du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale du Togo. Le Conseil qui a rencontré des leaders religieux pour identifier dans chaque commune du pays les sites où les prières vont pouvoir se dérouler. Les religions traditionnelles devraient commencer leur rituel, jeudi prochain, le 8 juillet, suivi par les musulmans vendredi et dimanche par les chrétiens.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
En plus bref, au Bénin, 7 ans après le plus gros scandale financier de l'histoire du pays, la justice béninoise tente toujours de comprendre comment ICC Services a pu escroquer les dizaines de milliers de gens qui lui avaient confié leurs économies selon un rapport du FMI, près de 150 000 personnes jusqu'à 300 000 selon certaines estimations auraient été spoliées entre 2006 et 2010. Vendredi, le procès a été reporté à une session ultérieure pour défaut de qualité de l'expert psychiatrique et insuffisance de pièces.
Et puis nous vous le disions dans le Flash Info, la chancelière allemande Angela Merkel présente aujourd'hui son programme en vue des législatives du mois de septembre, mais elle se prépare aussi au sommet du G20 prévu jeudi et vendredi à Hambourg.
À 5 jours de la rencontre, des groupes environnementaux, ONG et syndicats ont lancé officiellement leur mouvement de contestation. Julie Trichet a tenté de comprendre les arguments avancés par les anti-G20.
Ils sont nombreux, les opposants au sommet du G20 qui se tient vendredi et samedi à Hambourg. Le groupe des 20 économies les plus importantes de la planète représente 85% du commerce mondial et 60% de la population. Mais selon Werner Etz de l'organisation altermondialiste ATTAC, cela ne justifie pas de monopoliser la parole.
Le problème est que le G20, en tant que pays riche, revendique de parler non seulement au nom du monde entier, mais aussi tout particulièrement au nom des pays pauvres.
Martin Herndelhofer, du mouvement catholique international pour la paix Pax Christi, espère lui que le G20 sera capable d'identifier les problèmes majeurs comme les guerres et le changement climatique.
Bien souvent, ils font eux-mêmes partie du problème, d'autant que le G20 essaie de résoudre les problèmes avec les mêmes moyens que ceux qui en sont à l'origine.
Selon le directeur du bureau berlinois de l'ONG Welthungerhilfe, que l'on peut traduire par aide contre la faim dans le monde, le G20 a une responsabilité particulière envers les pays pauvres et il doit veiller à les placer au centre des discussions. Richard Hepp.
Si le sommet se passe bien, il y aura un engagement sur l'accord de Paris. Et il pourrait décider d'une chose facilement réalisable, la mise en place d'un mécanisme de financement préventif pour lutter contre la famine et aussi le changement dans le discours pour mettre l'accent sur l'agenda 2030 au lieu de la stabilité économique mondiale.
L'agenda 2030 aspire à 3 buts. La lutte contre les inégalités, l'exclusion et les injustices, faire face aux défis climatiques et mettre fin à l'extrême pauvreté. Les ONG allemandes ont toutes un objectif commun, faire entendre la voix des populations des pays les moins avancés.
C'est cette semaine dans Droits et Libertés, la seconde partie de l'entretien que nous avons mené avec deux jeunes militants de la société civile tchadienne. Nadjo Kaina, coordinateur de la campagne Tournons la page, Tchad et porte-parole du mouvement de jeunes IINA, et aussi avec le porte-parole de la coalition Justice ou Rien, Maïdixem Dildoum Noël.
Beaucoup croient que nous sommes en train de faire le jeu de l'opposition. Or, ce n'est pas ça. Il faudrait que les opposants, eux également, comprennent que c'est parce qu'il y a un système en place qui agit en dehors des règles de l'art démocratique, bien sûr. C'est pourquoi nous sifflons. Et nous allons continuer par siffler comme ça tant que le Tchad va exister, que nous soyons en vie.
Retrouvez le magazine Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
Deutsche Welle, le sport. Sophie Serbini.
Et on parle de la Coupe des Confédérations qui s'est terminée hier avec une victoire finale de l'Allemagne, Sophie.
Et c'est la première fois de son histoire que la Mannschaft remporte cette compétition. Il a suffi d'un but aux Allemands, champions du monde en titre, pour battre le Chili en finale. À Saint-Pétersbourg, en Russie, c'est Lars Schindl, joueur du Borussia Mönchengladbach, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 20e minute de jeu, profitant d'un service de Timo Werner suite à une erreur du Chilien Marcelo Diaz. L'Allemagne a ensuite souffert, le Chili se créant de nombreuses occasions, mais les joueurs de Joachim Löw vont résister jusqu'à la fin du match. On rappelle que de nombreux cadres de l'équipe d'Allemagne n'étaient pas présents pour cette compétition. C'était notamment le cas de Thomas Müller, Manuel Neuer, Toni Kroos ou encore Mesut Özil.
Une rencontre pleine d'émotions, hein, Sophie. Ils ont joué avec nos nerfs.
Un petit peu, oui.
Alors cette victoire avec une équipe remodelée, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Allemagne à un an de la Coupe du Monde, non?
Alors théoriquement, oui, puisque la compétition est souvent considérée comme une répétition du Mondial. Même pays, même stade, même date. Mais aucune équipe n'a jamais réussi à faire le doublé Coupe des Confédérations, Coupe du Monde. Pour l'emporter l'année prochaine, l'Allemagne devra donc conjurer le sort. Mais pour le moment, les joueurs de Joachim Löw n'y pensent pas et préfèrent savourer leur victoire. Marc-André Ter Stegen, le gardien titulaire de la Mannschaft lors de ce tournoi, était de ceux qui ne boudaient pas leur plaisir hier soir. C'est un plaisir d'avoir gagné ce match aujourd'hui. Cela signifie beaucoup pour nous tous et je pense que c'était vraiment spécial pour tout le monde. Et je suis vraiment heureux pour l'équipe. Je pense que nous avons fourni de gros efforts dans ce match et je pense que nous avons mérité la victoire, même si c'était une rencontre très serrée.
Une rencontre très serrée. Quelle équipe complète le podium, Sophie?
Eh bien, c'est le Portugal. Pourtant privé de Cristiano Ronaldo, rentré auprès de sa famille après la défaite de son équipe en demi-finale. La Seleção a dû attendre la prolongation pour se défaire du Mexique hier après-midi. Les deux formations étaient à égalité, un partout à l'issue du temps réglementaire. Durant la prolongation, très engagée des deux côtés, le Portugal a fini par prendre le devant sur un pénalty transformé à la 104e minute par Adrien Silva.
En cyclisme maintenant, le grand événement du week-end, c'était bien sûr le départ de la 104e édition du Tour de France.
Un départ donné cette année en Allemagne. Samedi, les coureurs se sont affrontés lors d'un contre-la-montre dans la ville de Düsseldorf. À ce petit jeu-là, c'est un Britannique, Geraint Thomas, qui s'est imposé tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde a lui dû abandonner suite à une chute spectaculaire dans les barrières. Dimanche, le peloton a relié Düsseldorf à la ville de Liège en Belgique à la fin de cette étape longue de 203 km. C'est un Allemand, encore, Marcel Kittel, qui l'a emporté au sprint. Une victoire qui ne lui permet pas de prendre le maillot jaune qui reste sur les épaules de Geraint Thomas. A noter que cette deuxième étape a été marquée par une chute massive juste avant l'arrivée. Christopher Froome et Romain Bardet, tous les deux favoris pour l'emporter, sont notamment tombés au sol mais ont pu repartir quelques minutes plus tard.
C'était un peu mouillé, faut le dire.
Un petit peu, oui.
Allez, Sophie, on part maintenant du côté de Paris. On disputait samedi soir la 7e édition de la Ligue, je vous dis bien, de diamants.
Et oui, de diamants. Et là, la soirée a été plutôt bonne pour les athlètes ivoiriens. Ben Youssef Meïté a remporté le 100 mètres. Il a réalisé un chrono de 9 secondes 99 devant le Cubain Younier Pérez et le Néerlandais Chourandi Martina. Chez les dames, Marie-José Talou a dû se contenter de la deuxième place derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson qui a dominé le sprint en 10 secondes 91. L'autre spécialiste ivoirienne du sprint, Muriel Aoré, est restée elle au pied du podium. À un mois des Mondiaux de Londres, ses résultats sont positifs pour la délégation ivoirienne qui divisait entre 2 et 5 médailles. La prochaine étape de la Ligue de Diamants aura lieu à Lausanne, en Suisse, vendredi soir.
Et puis en tennis, début aujourd'hui du troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, Wimbledon bien sûr. Londres et un homme est particulièrement attendu, Sophie.
Cet homme, c'est Roger Federer qui arrive à Londres avec un objectif clair, remporter son 8e Wimbledon, ce qui constituerait un record. Pour le moment, le Suisse est à égalité avec Pete Sampras, les deux hommes ayant remporté 7 fois le tournoi chacun. Roger Federer, qui avait fait l'impasse sur Roland-Garros, arrive en pleine forme et vient tout juste de remporter le tournoi sur gazon 2-2. Mais attention, car la concurrence sera féroce à Londres. Raphaël Nadal, vainqueur à Paris début juin, mais aussi Andy Murray, qui évolue à domicile, tenteront de faire chuter l'homme aux 18 tournois du Grand Chelem.
Et puis un sport qui vous plaît encore plus, je crois, le basket. Qui va donc accueillir l'Afrobasket 2017? Ça y est, on le sait.
Eh bien, ce ne sera pas un pays, mais bien deux, puisque ce sera la Tunisie et le Sénégal qui vont conjointement organiser la compétition du 8 au 16 septembre prochain, après le désistement de la République démocratique du Congo pour des raisons financières. Les deux pays vont chacun abriter les rencontres d'un groupe de 4 équipes au premier tour. Cependant, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se dérouleront en Tunisie. Outre les pays hôtes, 14 autres sélections nationales prendront part à l'Afrobasket. Il s'agit de l'Angola, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Nigeria qui est tenant du titre.
Ça va faire du déplacement. Hein.
Quelle Sophie sportive ce matin. Il est 7h25. En temps universel, 9h25 ici à Bonn en Allemagne. Vous écoutez Info Matin et c'est parti pour votre rubrique. À vous la parole.
À vous la parole.
Le 29e sommet de l'Union africaine se tient aujourd'hui et demain au siège de l'organisation Addis Abeba en Éthiopie. Il a pour thème tirer pleinement profit du dividende démocratique en investissant dans la jeunesse africaine. Mireille Drone a recueilli vos commentaires à ce sujet.
Ce n'est pas que le sujet manque d'intérêt, mais il semble que nos auditeurs et internautes, dont de nombreux jeunes d'ailleurs, ne soient pas du tout convaincus de cette rencontre. Comme Franck de Lomé au Togo, qui dit ne rien attendre du tout de ce sommet de l'Union africaine. Même écho de la part de Djibo, du Togo également, c'est toujours le même menu, affirme-t-il, on discute, on propose et on range tout dans les tiroirs. Dépité, Christian, étudiant actuellement à Moscou, nous écrit « On n'y croit plus, la meilleure solution, c'est l'immigration vers la source de nos malheurs, la France ». Il reproche en même temps aux dirigeants africains d'être les valets locaux de l'impérialisme français. Plein d'amertume, Joseph de Kinshasa en RDC, qui n'attend rien de ce sommet, trouve qu'il ne s'agit que de simples slogans des vieux complices qui sacrifient leur peuple au profit de rien, parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à s'approprier le potentiel du développement qu'incarne la jeunesse. Décidément pas très optimiste non plus, Franck d'Abidjan, Côte d'Ivoire, pense que ce sommet d'Addis Abeba n'est qu'une répétition. Nous savons bien que la jeunesse sera toujours à la dernière place tant qu'on ne fixe pas les conditions pour un avenir meilleur. Mais Amiel de Sahar ou Tchad veut croire justement en des jours meilleurs.
Ça va changer parce que la jeunesse prendra conscience. Parce que quand la population augmente, il faut gérer de la place ou la répartition des biens, la répartition des fonciers pour qu'il n'y ait pas de problème et tout ça. Parce que pour le moment, eux, ils ont ce pouvoir. Mais ils ne pensent pas à la jeunesse, ils ne pensent pas à la génération future. Donc s'il y a ce sommet qui puisse permettre de donner place aux jeunes de parler ou de penser à la démographie, à la vie durable. J'y crois que de cette jeunesse naîtra également des futurs dirigeants solides, bien instruits, bien informés pour la direction de l'Afrique future. Quoi.
Plusieurs sommets se sont tenus sans que les choses évoluent, observe Eric de Bujumbura au Burundi, mais il espère aussi que ce 29e sommet de l'Union africaine sera plus favorable à la jeunesse si les dirigeants s'attaquent au chômage dont souffrent les jeunes.
Le 29e sommet de l'Union africaine qui a pour thème tiré pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Sandrine Blanchard.
Et oui, qui s'ouvre aujourd'hui pour deux jours à Addis Abeba. Un autre grand sommet, celui d'hier à Bamako du G5 Sahel. Les pays participants ont décidé de la mise en place d'une force africaine de lutte contre les groupes armés, ou plutôt réitérer leurs engagements en ce sens. Ils espèrent voir sa mise en œuvre dans les prochains mois. déjà. Et puis, enfin, troisième et dernier grand sommet en préparation en Allemagne, cette fois celui du G20, qui est prévu à la fin de cette semaine et qui déjà suscite bien des contestations.
Il est 7h28, 29 minutes en temps universel. C'est la fin de cette première édition de nos informations sur la Deutsche Welle. Nous nous retrouverons à 17h, temps universel, pour une nouvelle édition en français sur la Deutsche Welle. Avant de nous quitter, voici la pensée du jour. Le fleuve est tordu parce qu'on ne lui montre jamais le chemin. À très très bientôt.
À ce soir, tchuss.